très rauque sauvage, farouche mais pas féroce. Nous avons un pied dans l'univers des fantasmes et l'autre dans la réalité. En pensant comme des bêtes malsaines et impopulaires, nous obéissons à l'instinct des charognards. Comme lui, nous avons appris la patience. Comme lui, nous croyons que le rock'n'roll est la dernière aventure du monde civilisé. Vivre de temps en temps, en hommage aux nomades, de pillage en pillage, en hommage à la rage, étorcher en orgie pour coiffer tous les hommages, de vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Et souvent nous vibrons jusqu'au bout de nos fibres. Quelques gorgées d'alcool pour nous donner la pulsation de vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. Oula. Nous ne vivons pas en cadence mais nous vivons en rythme. Nous martelons en rythme le sol du monde et nous scandons en rythme la même incantation de vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes modernes. De vouloir tous devenir comme des cavernes modernes, de tous vouloir devenir comme des cavernes, comme des cavernes, comme des cavernes, comme des cavernes, comme des cavernes. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées. Plus de chefs, plus de flics, plus de curés, plus d'armées.
Bonsoir, vous écoutez donc Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir, donc, qui recommence sur son rythme bimensuel. Et vous venez d'écouter un morceau d'OTH, qui date de 1985, Homme des cavernes modernes. Donc, c'est un morceau qui se trouve, d'après José, sur la compilation Les héros du peuple sont immortels. Voilà, il semble que deux membres du groupe OTH aient formé un nouveau groupe, dont je viens d'oublier le nom, évidemment. Salut les anges, voilà si vous voulez aller les écouter. Donc ce soir, de quoi allons-nous vous parler de deux ouvrages, peut-être plus principalement d'un, on verra. Donc premier ouvrage, c'est un ouvrage de David Graeber, G-R-A-E-B-E-R, Graeber si vous préférez, qui s'intitule « Pour une anthropologie anarchiste », qui est édité chez Lux dans la collection Instinct de Liberté. Alors les éditions Luxe, vous pourrez les rencontrer d'ailleurs lors du salon du livre libertaire qui aura lieu au Blanc Manteau très prochainement. J'ai pas la date sous les yeux, mais voilà, donc c'est une maison d'édition assez intéressante. Si jamais vous passez à Paris et que vous voulez aller au salon du livre libertaire, je vous recommande d'aller voir leur stand, parce qu'ils ont beaucoup de livres consacrés aux idées libertaires. Qui sont plutôt bien. Donc voilà, c'est une bonne petite maison d'édition. Donc ce livre est assez bref. Il a l'avantage de pouvoir tenir dans une poche, ce qui n'est pas négligeable. Et il s'intitule donc « Pour une anthropologie anarchiste ». On va aussi parler sans doute en contrepoint d'un autre livre d'un anthropologue français cette fois-ci, parce que Graeber est américain. Jean-Mathias ?
Oui, le deuxième livre duquel je voulais parler, donc comme on va parler pas mal d'anthropologie et puis d'anarchie ce soir, c'est un livre d'un anthropologue français qui s'appelle Pierre Clastre, et le livre s'appelle « Archéologie de la violence ». C'est un petit livre, encore plus petit que celui dont tu vas nous parler, Michel, donc édité aux éditions de l'Aube. C'est pas récent, hein. Ça a été édité en 97 et ça reprend un texte qui en fait était paru en 77, Donc c'est pas du chaud bouillant en termes d'édition, mais ça pose plein de questions intéressantes. Et ça pose utilement des questions qui sont celles des rapports de l'anthropologie à l'anarchie, de l'étude des sociétés dites primitives et de la possibilité de fonctionnement libertaire à l'échelle de sociétés complètes. Donc c'est pour
dite
ça que
complète.
Ça m'a dite complète. Donc c'est ce qui m'a paru intéressant là pour discuter un peu en contrepoint par rapport au livre de Grébert dont tu voulais nous parler ce soir.
Alors, tout d'abord, deux, trois remarques sur le ton et le style du livre de Grébert, qui est assez intéressant. Le titre original, c'est, si on devait traduire littéralement, ce serait « Fragment d'une anthropologie anarchiste ». Et c'est un livre qui propose des pistes, très souvent, et qui ne va pas forcément essayer de les creuser totalement à fond. Mais c'est aussi un livre qui se lit avec assez de plaisir, c'est assez alerte, plutôt drôle. Il y a pas mal de blagues. Une blague, par exemple, je cite juste ça parce que j'ai pas pu résister, surtout à cette période. Combien faut-il d'électeurs pour changer une ampoule ? Jean-Mathias, tu vois pas ?
Je sais pas changer une ampoule.
Aucun, les électeurs ne peuvent rien changer.
Ouais.
je pense que c'est un peu adapté à la situation. mais à part ça, c'est quand même un livre assez sérieux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment du grain à moudre si on veut réfléchir un petit peu. Mais la façon dont il se présente est quand même très très abordable, y compris pour des gens qui ne sont pas anthropologues ou qui n'ont pas eu les moyens de se payer 7 ans d'études à l'université. C'est quand même assez appréciable. Ça fait partie du genre de livre que j'aime bien. Parce que je ne suis pas sûr que finalement il en dise beaucoup moins que les livres que je venais de mentionner, ceux pour lesquels il est nécessaire d'avoir été 7 ans à l'université avant d'en comprendre 3 lignes. Donc, premier point, je pense qu'on peut aborder, après tu me corriges si je dis des bêtises ou si tu penses que je dis des bêtises et ensuite je te pourris.
Vas-y.
C'est que, pourquoi parler de l'anthropologie ici ? C'est que je crois qu'il y a quand même un point important. Alors l'anthropologie, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un discours sur l'humanité, sur l'homme, qu'est-ce que c'est que l'homme ? Du point de vue des sciences, on pourrait dire presque sociales, on va étudier les sociétés humaines, voir comment elles fonctionnent. Et il me semble que finalement, toute théorie politique est plus ou moins traversée, qu'elle le veuille ou non, par une anthropologie, c'est-à-dire par une théorie finalement de l'humanité. Est-ce que, en gros, est-ce que l'homme est méchant ? Est-ce que l'homme est gentil ? Est-ce qu'il est ni l'un ni l'autre ? Est-ce que ces questions ont un sens ? Et donc, ici, Grébert, et je pense que Classe, c'est un peu pareil, d'une certaine manière, vont discuter aussi des fondements de l'anthropologie du libéralisme, ou du capitalisme, comme on veut l'appeler. Et cette anthropologie est particulière, c'est-à-dire qu'elle a tendance à naturaliser, c'est-à-dire à faire comme si, à naturaliser le comportement, qu'on pourrait dire capitaliste, c'est-à-dire à faire comme si les hommes se comportaient naturellement, de manière à maximiser leur profit. Et de ce point de vue-là, l'anthropologie est très intéressante pour des gens qui ont envie de réfléchir sur la politique, parce qu'elle nous montre que, avec des faits, que pour le coup, ça, c'est absolument pas naturel. C'est-à-dire que y a tout un tas de sociétés possibles, et réelles, d'ailleurs, qui ne sont absolument pas capitalistes. Alors après, le deuxième obstacle, c'est qu'on peut penser que ces sociétés sont finalement à un stade antérieur d'évolution ou de développement. Et que si on les laissait se développer en vase clos, elles aboutiraient tout naturellement à des sociétés capitalistes dotées d'un État. Et ce que certains anthropologues cherchent à montrer, c'est que pas forcément, pas du tout. Que certaines de ces sociétés peuvent être construites pour justement essayer d'échapper autant à l'État qu'au marché. Ça ne va pas par exemple être des sociétés du troc, où il y a un échange avec une vue potentielle de profit, mais des sociétés plutôt fondées sur le don, même si ce que eux appellent don n'est pas forcément ce que nous appelons don. Bien que c'est des sociétés qui vont être construites vraiment pour finalement tuer dans l'œuf toute tentative de capitaliser, que ce soit financièrement ou politiquement. Et c'est pour ça que, je pense que l'anthropologie, justement, que ce livre de Grébert ou que le livre de Clast ont un intérêt. D'ailleurs, Clast en avait écrit un autre, un peu plus célèbre, qui s'appelle « La société contre l'État ». Justement, il essaie de montrer ça, qu'il y a des sociétés qui sont construites pour empêcher le pouvoir de s'étendre. Et donc, voilà l'intérêt de parler d'anthropologie quand on parle, je crois, de théorie politique et de théorie anarchiste. Alors, il ne s'agit pas ici de tomber dans une espèce de rousseauisme un peu béat et de dire que les hommes sont gentils, et que la société capitaliste les a pervertis suite à un accident malheureux.
Parce qu'au fond, ils sont méchants.
Parce qu'au fond... non plus. Mais on pourra essayer de voir que tout ça, c'est peut-être qu'une question d'organisation politique, justement. Mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, par exemple, dans une société politique pour gérer les ambitieux ? Il y aura forcément des ambitieux, il y aura forcément des gens qui s'en fichent. Mais comment est-ce qu'on fait pour gérer les ambitieux si on ne veut pas justement que... si on veut les frustrer ou si on veut les satisfaire. Donc voilà un petit peu, ça je pense que c'est un premier point qui pouvait être intéressant. Et ensuite, deuxième point, donc, c'est que David Graeber se demande pourquoi finalement on n'exploite pas davantage l'anthropologie. Pourquoi, y compris dans les théories d'ailleurs politiques anarchistes. Et il se demande aussi pourquoi les anthropologues ne s'investissent pas plus dans le débat politique. Ce qui l'amène à se demander de façon plus large pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de discipline académique étudiée à l'université qui le soit sous un angle anarchiste. Et il pense qu'il y a une perte ici assez lourde, mais il compare ça au marxisme. Pourquoi est-ce que le marxisme a si bien réussi à l'université, au moins durant un temps, mais il continue à avoir des défenseurs dans les universités. Et sa conclusion, c'est que finalement, le marxisme s'intéresserait beaucoup mieux aux structures universitaires, parce que le marxisme serait, selon lui, finalement, une discussion, une théorie, ou une discussion théorique sur les stratégies révolutionnaires. Alors que l'anarchisme serait davantage une discussion, plutôt une réflexion éthique sur les stratégies, sur les pratiques révolutionnaires. Et donc, à cet égard, l'universitaire marxiste va organiser des colloques sur la prochaine étape de la révolution. L'universitaire anarchiste, il est vraiment anarchiste, va remettre en cause les structures de l'université dans laquelle il travaille. Ce qui, selon Graeber, lui procurera sans doute beaucoup plus d'ennuis que n'importe quel article qu'il aurait pu écrire. Et de ce point de vue-là...
Si j'ai bien tout suivi, oui. Graeber s'est fait virer de l'université de Yale, d'après ce que j'ai compris.
Aussi, oui.
Ouais, donc il a une carrière contrastée.
Oui, parce que c'est pas simplement un universitaire qui écrit, c'est aussi un militant. Alors après, est-ce qu'il s'est fait virer pour des raisons militantes? Ça, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il s'est fait virer en 2005 de Yale, sans explication. Il cite la quatrième de couverture du livre. Mais bon, sans explication, on ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce que c'est pour ses activités militantes ou pas? Il avait écrit le livre avant de se faire virer.
Bon.
Donc, je pense
on n'en sait pas plus.
On n'en sait pas plus, voilà. Alors, maintenant, c'est pas parce que, effectivement, les théories libertaires sont pas du tout étudiées à l'universitaire qu'elles n'ont pas besoin d'être théorisées. Mais elles vont jamais être théorisées, et elles l'ont été d'ailleurs, mais elles vont pas être théorisées de la façon des marxistes, selon lui. Et il remarque d'ailleurs que la plupart des courants libertaires portent des noms de pratiques et pas des noms d'individus.
D'accord. Alors de quoi il nous parle alors dans ce livre?
Alors ensuite, ce qu'il va essayer de faire, c'est une micro-théorie, une façon d'aborder les questions concrètes et immédiates que pose un projet de transformation. Ce genre de question est généralement considéré dans le courant dominant des sciences sociales comme relevant de la sphère des politiques. Il n'est pas d'un grand secours, ici, et aucun anarchiste qui se respecte ne veut rien avoir à faire avec cela. Alors, avec les politiques, évidemment. Mais... ici, le principal objet de l'essai va être précisé, c'est quelle sorte de théorie sociale aurait un intérêt pour ceux qui tentent d'aider à l'émergence d'un monde dans lequel les gens sont libres de gouverner leurs propres affaires. C'est-à-dire qu'ils cherchent, je pense qu'il y a une petite pique contre certains courants des sciences sociales qui se veulent neutres, ils se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut rendre les sciences sociales intéressantes, finalement, pour ceux qui veulent faire de la politique. Et donc, c'est pour ça qu'il pense après que... comment que l'anthropologie a un rôle à jouer ici. Parce que l'anthropologie, justement, elle n'étudie pas forcément notre société telle qu'elle est, avec tous les effets enfermants que ça peut avoir, ce type d'étude. Genre, c'est comme ça, on reproduit tout, on ne pourra pas en sortir. Mais elle étudie des sociétés qui parfois sont totalement différentes de la nôtre, et qui peuvent justement nous montrer tout l'éventail des possibles humains.
D'accord. Et donc, tu as un certain nombre d'exemples, j'imagine, alors, dans ce livre.
Tout à fait. Ouais. Donc, il y a pas mal d'exemples. Que j'aborderai bientôt, mais peut-être après un peu de musique. Mais José Félamou dit que c'est pas nécessaire pour l'instant, bon, on verra. Mais effectivement, il va partir de pas mal d'exemples et il va essayer aussi de montrer en quoi l'anthropologie est une science sociale qui est riche du point de vue politique, et ce depuis finalement son origine. Alors lui, je pense qu'il faut partir de certaines hypothèses de départ pour une telle théorie. C'est juste deux. Voilà. D'une part, l'hypothèse qu'un autre monde est possible, que des institutions comme l'État, le capitalisme, le racisme et la domination masculine ne sont pas inévitables, qu'il serait possible de vivre dans un monde dans lequel ces choses n'existeraient pas et que nous nous en porterions tous mieux. Alors, il avoue que... Il avoue que c'est presque un acte de foi, ça. Ouais. Parce qu'il pourrait s'avérer qu'un tel monde n'est pas possible. Ouais. Mais à partir de là, pour lui, ça devient une espèce d'impératif moral. C'est-à-dire, si on ne peut pas savoir qu'un monde radicalement... dans la mesure où on est incapable de savoir qu'un monde radicalement meilleur est impossible, est-ce qu'il ne faut pas quand même tenter le coup ? C'est-à-dire, renoncer à ça, c'est quand même... je pense pour lui, c'est le début de la fin. Tiens. Mais je pense qu'on pourrait le formuler autrement. C'est-à-dire, s'imaginer que seule notre réalité doit exister, sous prétexte qu'elle existe déjà, effectivement, ça, c'est la mort de toute pensée politique.
Et donc, son projet, ça va être à partir de l'étude de différentes sociétés différentes de la nôtre, d'essayer de montrer comment des sociétés ont pu mettre en place des relations sociales ou des fonctionnements collectifs qui permettaient de tomber dans les travers dont tu parlais, donc racisme, étatisme, capitalisme.
D'éviter ces travers.
Okay.
Justement, alors, on verra que les exemples qu'il donne, justement, ils n'évitent pas tous les travers. Il donne souvent des exemples de sociétés anarchistes imparfaites. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Mais
une société, alors ce qu'il appelle une société anarchiste, c'est une société sans État, à la manière de Clastre.
Et sans marché.
Et sans marché, d'accord.
Donc c'est des sociétés foncièrement égalitaires qui existent. Alors après, il faut en voir quel type
des
de société.
Sans chef et sans riche.
Oui.
D'accord.
Tout simplement. Mmh. Alors après, on verra qu'il y a toujours, il y a parfois des formes de domination quand même. C'est pas toujours aussi, c'est pas toujours cristallin, mais ça existe quand même. Et donc, ensuite, deuxième proposition, c'est que, selon lui, je vous le cite, toute théorie sociale anarchiste devrait rejeter volontairement toute trace d'avant-gardisme. Le rôle des intellectuels n'est certainement pas de former une élite qui puisse parvenir aux analyses stratégiques justes et ensuite entraîner les masses. Alors, qu'est-ce que ça va être, le rôle des intellectuels pour lui c'est finalement de montrer justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ces sociétés sans chef et sans riche ont existé. C'est simplement, voilà, montrer des faits. Voilà, vous me dites que c'est pas possible, bah, ça a été possible. Donc pourquoi est-ce que ça le serait plus ? Et vous verrez que, alors évidemment, des objections viennent tout de suite, pourquoi on peut se dire c'est plus possible parce que ceci, parce que cela. Et on verra qu'est-ce que ça met en jeu, parce qu'il y répond aussi, Graeber, à ça. Évidemment, il n'est pas idiot, il sait... Je pense qu'il a suffisamment discouru, enfin débattu avec des gens qui étaient hostiles pour voir les objections qu'on pouvait lui adresser. Donc, lui, il pense que justement, la pratique de l'ethnographie, c'est-à-dire l'étude des ethnies, des cultures, offre un modèle de la façon dont pourrait fonctionner une pratique intellectuelle révolutionnaire, là je le cite encore, qui ne soit pas avant-gardiste. Parce qu'il dit, quand on réalise une étude ethnographique, on observe ce que les gens font, et on essaie ensuite de découvrir la logique symbolique, morale ou pragmatique, implicite, qui sous-tend leurs actions. C'est-à-dire, on essaie d'observer ce qui crée des alternatives viables, là je vous le cite encore, essayer de comprendre quelles peuvent être les implications plus larges de ce qu'ils font déjà, et offrir ensuite ces idées non pas comme des prescriptions, mais comme des contributions, des possibilités. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de bâtir une théorie, de dire aux gens, voilà ce que vous devez faire. Il s'agit de dire, voilà ce que des gens font, et voilà ce que nous on pourrait faire. Mais voilà, c'est une possibilité. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est quand même... ça donne un intérêt, c'est vrai, à l'anthropologie. Qu'est-ce que t'en penses ? Donc, avant de passer à quelques exemples, on va peut-être faire une pause musicale, histoire de vous soulager. Et donc, on va vous faire écouter un morceau de Joe Lally, qui était le bassiste de Fugazi, donc un très grand groupe qu'on vous avait déjà fait écouter, un groupe de Washington, de hardcore. Et le groupe s'intitule « Nothing to Lose », Joe Lally.
C'est Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir, Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, la radio des vrais travailleurs. Donc on vous parle, on vous parle ce soir d'anarchie et d'anthropologie autour de deux petits livres dont on a un premier donc, qui s'appelle « Pour une anthropologie anarchiste » aux éditions Luxe et un deuxième de Pierre Clastre qui s'appelle « Archéologie de la violence ». Donc Michel, tu nous parlais de ce livre de David Graeber pour une anthropologie anarchiste. Tu avais envie de nous parler d'un certain nombre d'exemples de sociétés construites ou organisées autour de principes libertaires tels qu'ils sont présentés dans ce petit livre.
Oui, donc alors ce qui est intéressant, c'est, je pense que tu pourras rebondir avec Clastre, justement parce qu'il parle de la violence, c'est que ce qu'essaie de montrer Graeber, c'est que bon, donc il y a des sociétés où le meurtre est presque inconnu, où la violence est quasiment absente, où l'enrichissement n'existe pas non plus. Et ce qui est assez curieux, c'est que ces sociétés sont très souvent des sociétés où l'imaginaire, au contraire, lui, est extrêmement violent. C'est-à-dire que, par exemple, chez les Piaroa, donc une société très égalitaire établie sur les rives de l'Orinoco, par exemple, si quelqu'un meurt par accident, parce qu'il n'y a quasiment pas de meurtre, immédiatement, les gens disent qu'en fait, il a été tué par des mauvais esprits, qui est dans une espèce de monde annexe, peuplé d'esprits, et se lance dans un grand rituel, et se livre à une espèce de génocide d'entités imaginaires. De ce point de vue-là, c'est... Il reconnaît une certaine forme de violence propre à l'humanité, sauf que, justement, il montre qu'il y a des systèmes mis en place qui peuvent essayer d'étancher cette soif de violence. Et que ça peut être des systèmes religieux ou autres, d'ailleurs. Une sorte de défouloir, imaginaire, où on balance toute la rage et la colère qui peuvent nous habiter parfois, sans forcément faire pâtir les autres. Donc ces Piaora, comment dire... Ils insistent eux-mêmes pour dire que cette culture a été créée par un dieu maléfique. Ah. Et donc, ils ont développé une philosophie morale qui définit la condition humaine comme étant prise entre un monde des sens, celui des désirs sauvages et pré-sociaux, et un monde de la pensée. Et devenir adulte implique, là je vous cite Graeber, implique d'apprendre à contrôler, à canaliser le monde des désirs sauvages par le monde de la pensée. Par égard pour les autres, et aussi très important, pour eux, devenir adulte, c'est aussi cultiver le sens de l'humour.
Ah, intéressant.
Ouais, c'est des gens sympathiques. Mmh. Et donc, ils sont extrêmement méfiants à toutes les, par rapport à même les formes de techniques, de connaissances techniques, à toutes les formes de pouvoir. Donc, alors ils sont célèbres pour leur pacifisme, parce que le meurtre n'existe pas. Ils sont fermement convaincus que toute personne qui aurait tué un autre être humain serait instantanément consumée par la pollution et mourrait d'une mort horrible. Mais par contre, ils vivent effectivement dans un imaginaire de guerre invisible sans fin, dans lequel les magiciens s'occupent de repousser les attaques des dieux déments et voraces, et où toute mort est causée par un meurtre spirituel et doit être vengée par le massacre magique de communautés entières, distantes et inconnues.
Donc ils sont tranquilles, pépères, mais parce que sinon ils sont consumés dans la minute par les divinités et par.
Bien sûr qu'ils se méfient beaucoup du meurtre, du pouvoir, toutes ces choses-là.
Donc ils construisent effectivement toute une série de récits et imaginaires pour se tenir en respect ou à distance finalement de cette violence-là.
Complètement, mais j'imagine qu'on pourrait toujours tout à fait formuler des discours modernes qui prendraient des formes plus ou moins adaptées, identiques. Je suis pas sûr que tuer les autres, ça nous réussisse. Hein.
Et donc là, il insiste sur le caractère du temps pacifique et non violent de cette société-là.
Complètement. C'est pour ça que je te disais ça, parce que je sais ce qu'il y a dans ton livre de ce soi-disant anthropologue anarchiste, la classe. Et donc, il y a un deuxième exemple, c'est les Tives, une société qu'on trouve au Nigeria. Alors, eux, il y a quand même quelques principes hiérarchiques qui font que c'est les hommes âgés qui ont droit aux femmes et les jeunes célibataires se morfondent pendant très très longtemps. Et alors eux, ils se livrent quand même, bon, c'est un peu plus violent, parce qu'ils n'ont jamais été à l'abri des marchands d'esclaves. Ils ne sont pas aussi isolés, ça peut être un petit peu plus difficile pour eux. Mais alors, eux, ils sont convaincus que les hommes parviennent au pouvoir en consumant la substance des autres.
Ah.
Donc, effectivement, c'est-à-dire que pour eux, ils considèrent le pouvoir comme quelque chose de cannibale.
D'accord.
Et donc,
il faut tout faire pour ne pas que le pouvoir se concentre.
Exactement. C'est-à-dire que tous ceux qui réussissent prennent la réputation de sorciers. Tous ceux qui acquièrent du pouvoir, de l'autorité, du prestige et de l'argent sont catalogués comme sorciers. Et on suppose que leur cœur est recouvert d'une substance appelée tsav, qui peut seulement être alimentée par l'ingestion de chair humaine. C'est-à-dire que pour eux, ceux qui acquièrent effectivement du pouvoir sont des cannibales d'une manière magique. Cette société imaginaire de sorciers, parce qu'on s'imagine que ces sorciers s'associent plus ou moins, est vue comme le gouvernement invisible du pays. Ce qui signifie que pour les Kiv, le pouvoir est donc le mal institutionnalisé.
Mais il se produit, il se développe ou comment ça se passe?
Parce que là, c'est nettement moins sympa que chez les Tirawa. À chaque génération, un mouvement de chasse aux sorcières surgit pour démasquer les coupables. Ah. Et en fait, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent toute structure de pouvoir naissante.
Concrètement,
ils ne le précisent pas. J'imagine qu'ils tuent les riches et puissants.
D'accord.
Ouais. De façon assez régulière.
Oui, c'est efficace.
C'est efficace. C'est efficace, mais bon, c'est pas... comment dire? Pour le coup, il y a pas mal d'oppression quand même dans cette société-là. Mmh. C'est une société dans laquelle il y a de la violence, dans laquelle les femmes sont opprimées, les jeunes aussi. Mmh. Et justement, Graeber pense que justement dans ces sociétés-là, il y a toujours... Finalement, même dans une société anarchiste, c'est toujours des virtualités pour que cette société meure et se tourne en société de pouvoir. Et je pense que là, c'est aussi une dimension intéressante, historique. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire... si on met la société capitaliste à bas, c'est bon, quoi. C'est le royaume de Milan et tout va continuer. Mmh. Non, les sociétés ont une histoire, elles évoluent, y compris des sociétés d'ailleurs relativement égalitaires, peuvent virer en société autoritaire parce qu'il y a très très souvent des éléments inégalitaires latents. Après, il faut voir quels sont ces éléments, est-ce qu'on peut les contrôler, comment est-ce que chaque société qui se veut égalitaire finalement met en place des structures sociales pour empêcher l'inégalité et la domination d'apparaître.
Donc là, tu nous as parlé un imaginaire de sorcier, ensuite les puissants cannibales, tu as un dernier exemple peut-être.
Ouais. Exemple de Madagascar. Ouais. Donc, Graeber est spécialiste, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors, c'est assez intéressant parce que, je rentre pas dans le détail parce que je l'ai oublié, c'est assez compliqué. Il y a des ethnies dans tous les sens qui portent des noms différents. Et les noms qu'elles portent, en fait, sont relatifs à la dépendance qu'elles ont par rapport au pouvoir. Et il semble que, pendant très longtemps, les Malgaches étaient justement soumis à une royauté, qui avait des esclaves, qui avait toute une structure autoritaire en place. Et petit à petit, le gouvernement a disparu. Et au XIXe siècle... il est tombé en désuétude, il s'est fossilisé, il y a des gens qui n'ont plus voulu participer. Et à partir de là, la vision de la monarchie a complètement changé. Et une fois de plus, les puissants sont devenus très très suspects. Et par exemple, on considérait qu'il n'était pas de bon ton, qu'il n'était pas bon, que des adultes se donnent des ordres, surtout sur une base régulière. Et donc, même une activité, une institution comme le travail salarié, va être considéré comme suspect par nature, ou au moins moralement suspecte. C'est pas complètement faux. Et pour eux, pour les Malgaches actuels, ces comportements étaient plutôt ceux qu'avaient les Français pendant la colonisation, ou les rois, ou les propriétaires d'esclaves. Donc ils sont extrêmement méfiants par rapport à tout ça. Et alors, ce qu'ils remarquent, c'est que la société est encore une fois de plus remarquablement pacifique, et qu'elle est une fois de plus entourée de guerres invisibles. C'est-à-dire que tout le monde...
De guerre invisible, tu veux dire de guerre imaginaire?
De guerre imaginaire, on imagine qu'il y a des sorciers qui lancent des sorts, mais on ne sait jamais vraiment qui est le sorcier. Quelqu'un tombe malade, on suppose que c'est un sorcier qui lui a quand même balancé ça dans la figure. Et donc, c'est un peu étrange, un peu ambivalent, parce que la sorcellerie est en même temps vue comme typiquement malgache. C'est un exemple assez intéressant, parce que ce qu'il montre avec ça, c'est finalement comment... une révolution est possible. Mais ce qui s'intéresse, c'est l'ethnogénèse. Et il a tendance à penser que ce qu'on appelle une ethnie, c'est peut-être des gens qui, justement, au début, sont regroupés sur une forme de base de projet politique. C'est-à-dire, c'est par exemple, il y avait une ethnie particulière qui s'appelait, je crois, qui avait un rapport aux cheveux, les cheveux longs ou les cheveux courts, c'était en rapport à la royauté. C'est ceux qui refusaient l'autorité du roi et ça se voyait leur coiffure. Et eux, ils se battaient jamais contre l'autorité centrale. Simplement, c'était des villages de pêcheurs. Et quand ils avaient vent de l'arrivée du roi qui venait les soumettre, ils s'en allaient.
Bon.
Ils partaient à la pêche.
Tous.
Un certain temps, le plus longtemps possible. Et ils revenaient que quand ils étaient vraiment sûrs que le roi était parti. Donc ils refusaient de se soumettre. Et ça a eu un impact. C'est que dans les années 80, il semble que l'État malgache soit pas mal effondré, d'après ce que dit Kreber, si je ne fais pas d'erreur. Et qu'à partir de là, les Malgaches se sont retrouvés dans une société quasiment autogérée parce que la police n'existait plus, de fait. Et donc, c'était à eux de gérer leurs affaires. Mais en même temps, les fonctionnaires continuaient d'exister, de passer de temps en temps. Et ce que faisaient les Malgaches, c'est qu'ils ne brandissaient aucun drapeau, ils ne se révoltaient pas, ils allaient signer les papiers. Voilà. Ah, le fonctionnaire a dit qu'on allait signer les papiers. Ben, on va signer les papiers. Puis après, ils s'en allaient. Mais en fait, ils ne répondaient jamais à l'État. Et ça, c'est des comportements qui étaient ancrés... qu'ils avaient pu avoir avec les colonisateurs français. Mmh. Un colonisateur français, voilà, enfin, on envoie une mission pour demander à certains malgaches de participer à la construction d'une route. On discute avec les anciens, tout se passe très bien. Ils sont d'accord, voilà, ils veulent bien construire la route avec nous, tout à fait, pas de problème, monsieur. L'administrateur s'en va, il est très content, il a trouvé des indigènes coopératifs, il revient la semaine suivante, ils sont tous partis. Mmh. Le village a disparu. Donc... Ici, pour Kreber, il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire que, pour lui, il faut aussi arrêter de concevoir la révolution comme une espèce de changement brutal. Il est très, très proche d'Élisée Reclus et de son livre « Évolution et révolution ». C'est-à-dire qu'il, finalement, il pense qu'une révolution, je pense qu'on s'en aperçoit qu'après coup, c'est quand tout a été bouleversé par tout un tas de petites évolutions insensibles qui se sont faites à partir d'événements politiques un peu imprévus, du type voilà, « l'État n'est plus très puissant, que font les gens ? Comment est-ce qu'ils s'organisent ?» Après, c'est pas dit qu'ils s'organisent en bande anarchiste. Hein. Ça peut être aussi des trucs mafieux avec des hiérarchies très strictes, on sait pas trop. Mais en tout cas, ces évolutions-là, elles peuvent se faire à partir de petits phénomènes, finalement. Et il a tendance à penser, de ce point de vue-là, qu'on peut définir une action révolutionnaire, justement, comme tout ce qui tend à vivre, à faire en sorte qu'on vive en dehors de l'État.
D'accord. Bon, eh ben on va peut-être faire une petite pause musicale là-dessus, avec un... titre des Exploited qui s'appelle I Believe in Anarchy.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, c'est Jeudi Noir, donc 89.4. Ce soir, nous vous parlons de deux livres, d'un livre, enfin surtout d'un pour l'instant, de David Kreber, qui s'intitule « Pour une anthropologie anarchiste », qui a été édité chez Lux, maison d'édition québécoise qui aura un stand au salon du livre Libertaire prochainement, à l'espace des Blancs-Manteaux, dans Paris, 3e arrondissement. Et d'autre part, de Pierre Clastre, un anthropologue français qui a écrit « Une archéologie de la violence », qui est édité aux éditions de l'Aube. Alors, ces deux anthropologues qui sont quand même, je pense, assez anarchistes, parce que Kreber consacre pas mal de pages à Clastre dans son livre, même si je ne vous en parlerai pas. Et donc Jean-Mathias, toi, pour l'instant, on a fait la version un petit peu peace avec Grébert, c'est-à-dire voir qu'il y a des sociétés égalitaires qui sont finalement sans violence. Mais là-dessus, Clastres a une position un peu différente.
Oui, alors c'est pour ça que c'est intéressant qu'on compare ces deux approches-là, parce que c'est vraiment le projet est assez identique dans les deux cas. Il s'agit d'essayer de trouver finalement dans des sociétés qui ne sont pas les nôtres, des exemples, des illustrations d'organisations sociales dans lesquelles on n'a pas d'État ou pas de mise en place de capitalisme ou pas de division sociale finalement entre riches, pauvres, chefs et serviteurs, etc. Et donc le projet est le même, c'est-à-dire essayer de voir dans quelle mesure des sociétés ont pu mettre en place des fonctionnements de sociétés sans État. Et en revanche, la démarche et les points de départ finalement sont de l'un et de l'autre, là, de Grébert et de Clastres, sont assez opposés, parce que autant d'après ce que tu viens de nous dire, Grébert insiste sur la manière dont certaines sociétés organisent un imaginaire ou des pratiques de désertion pour tenir à distance la violence ou l'État. Le tout pour essayer d'établir des relations sociales finalement horizontales, pacifiques. Autant Clastres insiste, lui, sur ce qui lui paraît être un phénomène central dans la vie des sociétés dites primitives, qui est le phénomène de la guerre. Et en fait, toute la thèse de Clastres, ça va être de montrer que finalement, c'est par la guerre que les sociétés primitives font en sorte, si tu veux, d'éviter la division et la hiérarchie, la mise en place de hiérarchie dans les sociétés. C'est-à-dire que la guerre est un moyen pour maintenir en sorte une espèce d'autonomie, de communauté qui se maintiennent sans hiérarchie et donc sans État. Alors, contrairement à ce que tu disais du livre de Grébert, le livre de Clastres est assez abstrait, c'est-à-dire que c'est un livre assez de théoricien. Hein. Pour le coup, c'est peut-être un reproche qu'on peut lui faire, c'est-à-dire que c'est un livre très systématique, assez conceptuel. Après, il est intéressant dans ce qu'il développe. Le point de départ de Clastres, ça consiste à dire que finalement, les anthropologues ou les ethnologues, donc ceux qui s'intéressent aux différentes sociétés humaines, donc pas prioritairement la nôtre. Son point de départ, c'est de constater que finalement, il s'intéresse assez peu à un phénomène qui pourtant a l'air universel, d'après Clastres, qui est celui de la guerre, justement. Et d'après lui, en fait, on est un peu prisonnier. Enfin, quand je dis on, c'est la plupart des anthropologues sont un peu prisonniers d'une espèce de vision qui voudrait que finalement la guerre est un phénomène marginal ou secondaire ou quelque chose qui intervient sur les ratés. Il y a trois approches d'après Clastres dans l'anthropologie pour penser la guerre. Il y a une première approche qui est celle d'un anthropologue qui s'appelle Leroy Gourhan, qui a tendance à finalement comprendre la violence et la guerre comme une sorte de processus pratiquement biologique qui serait inscrit dans la vie sociale et qui serait un prolongement de l'instinct du chasseur. Donc il y a quelque chose chez Leroy Gourhan de cet ordre-là, c'est-à-dire qui expliquerait finalement la guerre comme un phénomène qui tend à étendre hein, finalement la chasse. La guerre, c'est la chasse à l'homme, hein, d'une certaine manière, dit Clastres. Ça marche pas très bien, d'après lui, parce qu'au fond, ça voudrait dire que la chasse, c'est aussi la guerre aux animaux, et qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe hein, dans les sociétés humaines. C'est-à-dire que les chasseurs ne font pas la guerre aux animaux, justement. C'est quelque chose d'autre. Effectivement, on est dans le besoin, dans la technique, pour trouver voilà, des besoins de subsistance. La guerre, c'est autre chose, dit Clastres. Alors, il y a un autre moyen d'expliquer la guerre, très souvent, c'est l'approche économique, qui consiste à dire, finalement, que des sociétés entrent en guerre lorsque elles ont besoin de ressources dont elles ne disposent pas sur leur territoire. Alors, Clastres dit bon que ça pourrait éventuellement marcher dans certains cas, mais que ça n'est pas suffisant parce que très souvent, on a affaire dans les sociétés humaines à des sociétés qui s'organisent de manière à être autarciques, c'est-à-dire à ne manquer de rien justement et à produire tout ce dont elles ont besoin. Et donc très souvent, ces sociétés qui font la guerre à leurs voisins de manière quasi permanente, d'après lui, ne le font pas pour trouver de nouvelles ressources ou parce qu'elles manquent de quelque chose, parce qu'elles sont la plupart du temps organisées justement de manière à ne manquer de rien. Donc cette explication économique de la guerre est aussi fragile d'après lui. Il y en a une troisième, donc après l'explication un peu biologique ou instinctive là, de la guerre comme prolongement de la chasse, et puis l'explication économique, c'est ce que Clastres appelle l'explication échangiste. Alors bon, il n'y a aucune connotation libertine dans cette approche-là. C'est, cette explication échangiste de la guerre, c'est celle que Clastres lit chez un anthropologue fameux qui est Lévi-Strauss, et qui considère en fait que la guerre intervient lorsque l'échange ne fonctionne pas. Et que l'idée de Lévi-Strauss, c'est que la plupart des sociétés sont construites sur l'échange. Alors, c'est-à-dire, bon, d'abord, échange des femmes à l'intérieur d'une société, c'est-à-dire que c'est l'interdit de l'inceste. Hein. On ne peut pas se marier avec n'importe qui, on ne peut pas épouser, faire des enfants à n'importe qui. Donc, il faut que les femmes circulent. Hein. Ça, c'est l'échange sur lequel repose toute organisation sociale, d'après Lévi-Strauss. Et puis, échange entre les sociétés, c'est-à-dire que ben, on s'échange voilà, des cadeaux ou des ressources, des instruments, des techniques, etc. Et que quand l'échange ne marche plus, alors la guerre intervient. Mais Clastres souligne que chez Lévi-Strauss, ça veut dire que la guerre serait comme une sorte de raté de l'échange. Et ce qui est premier, au fond, dans la vie sociale, c'est l'échange. Et au fond, Clastres n'est pas d'accord avec ça non plus. C'est-à-dire que ce qu'il va essayer de montrer, c'est qu'au fond, la guerre, c'est quelque chose qui est un phénomène primitif, c'est-à-dire que les sociétés primitives sont organisées autour de la guerre. Et que c'est ça qui prime, c'est-à-dire que les échanges, par exemple commerciaux, notamment entre les sociétés, sont au fond des formes de se faire, des manières de se faire la guerre. Des manières soft, des manières moins violentes ou moins meurtrières. Moins violentes, ça, il faut voir, mais moins meurtrières. Mais qu'au fond, c'est encore une manière de se faire la guerre et que la plupart des échanges qui se nouent entre les différentes sociétés sont en fait des échanges entre alliés ou ennemis. Et qu'au fond, c'est sur la base de la guerre, qui est une sorte de phénomène voilà, institutionnel dans les sociétés primitives, que s'organisent par la suite les échanges. Alors, c'est pas, pour comparer à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas du tout un pacifiste ou un non-violent, Clastres. Enfin, c'est pas pour dire qu'il est belliciste ou violent, mais d'après lui, il y a quelque chose qui est primitif, au fond, dans la guerre. Et donc, son petit livre va essayer de chercher à savoir, au fond, quel est le but hein, de cette activité guerre qui serait inscrite dans toutes les sociétés d'après lui. Alors l'explication qu'il avance, et c'est une explication qui est assez intéressante, ça consiste à dire qu'au fond, la guerre, c'est quoi ? C'est l'affirmation par une société de son unité hein, et de sa liberté. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que si les sociétés font la guerre de manière quasi universelle et pas permanente, mais que la guerre est toujours latente en quelque sorte, c'est parce que les sociétés primitives veulent affirmer en quelque sorte leur autonomie hein, et l'affirmer ben, à l'égard effectivement des autres sociétés. Alors ça, c'est une vision bon, qui n'est pas particulièrement optimiste hein, de la nature humaine. Mais ce qui est intéressant chez Clastres, c'est que ça l'amène en fait à dire aussi que lorsque les sociétés primitives affirment leur autonomie, par la guerre, c'est aussi pour elles un moyen, au fond, de maintenir à l'intérieur de la société des relations égalitaires, horizontales. Hein.
Ben souvent, dans la société contre l'État, il donne l'exemple du fait que le chef n'a quasiment aucun pouvoir dans cette société, mais il est institué, il doit être chef, il doit faire les choses. Et en même temps, à quoi sert-il ? Il sert surtout dans les opérations guerrières.
Absolument.
Mais comme la société, comment dire, son groupe le suit ou pas dans ses velléités guerrières, le chef, s'il est désavoué, peut se retrouver, pour des questions d'honneur, obligé de partir avec deux gars, se battre. Donc là, en général, il se fait trouver de flèches dans les 15 minutes qui suivent par les ennemis en question. Et finalement, la tribu s'est retrouvée débarrassée d'un dangereux ambitieux qui aurait pu lui servir éventuellement si les choses étaient devenues sérieuses ou si la guerre avait semblé souhaitable à cette communauté.
Ouais. L'idée de classe, c'est ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le chef n'a de légitimité, si on peut dire comme ça, que s'il porte la voix de la communauté et uniquement elle. C'est-à-dire que le chef n'exerce aucun pouvoir centralisé organisée, séparée sur les individus qui forment la société. C'est-à-dire qu'effectivement, il est censé, c'est un porte-parole. C'est un porte-parole. Et dès qu'il sort effectivement de ce rôle-là, il est...
Dans la tribu qu'avait étudié Kral Last d'auprès, alors ça vous pourrez le voir, moi je le sais, dans la société contre l'État, je ne sais pas si c'est dans l'archéologie de la violence, mais il y avait une tribu où le chef n'avait à peu près que trois, quatre caractéristiques. D'une part, il était obligé de donner tout ce qu'il avait aux autres, ce qui fait que c'était assez facile de le reconnaître. En général, c'était le plus pouilleux. D'autre part, il était obligé de faire un discours tous les jours, un discours que personne n'écoutait. C'était institué comme ça, et s'il ne faisait pas ce discours, il pouvait être démis de sa fonction de chef. Donc il fallait qu'il se fasse humilier tous les jours en faisant ce discours que personne n'écoutait, à ce extrêmement répétitif sur qui nous sommes, pourquoi est-ce que nous sommes bien, ceci, cela. Et puis d'autre part, il avait quand même le petit avantage, c'est qu'il avait le droit d'avoir plusieurs femmes. Si on peut... Enfin, bon.
Mais, c'est parfois un avantage, et puis parfois...
Bon,
tu nous en parleras un autre jour. Parce
non,
que là,
et bon, peu importe. Mais comme en plus il n'avait pas grand-chose, étant donné qu'il donnait tout, je ne vois pas comment il pouvait entretenir ses enfants s'il en avait plusieurs. Enfin, je ne suis pas sûr que c'était une bonne situation, même si on écarte tout l'aspect moral de la polygamie. Je ne suis pas sûr que c'était un bon plan d'un point de vue économique. Et puis d'autre part, bah, il était obligé de partir à la guerre. Quand c'était lui qui menait les opérations guerrières. Et effectivement, là, il y avait tout un système qui à la fois instituait un chef et ne cessait de le destituer dans les faits.
Ouais. Et alors ça, c'est ça le point le plus intéressant, il me semble, dans le livre de Clash. Je ne sais pas s'il a raison ou si, parce que bon, il faudrait regarder ça d'un peu près à partir d'exemples et tout ça. Mais son idée, au fond, la conclusion à laquelle il arrive, c'est qu'en réalité, toutes ces sociétés, donc non seulement sont dépourvues d'État, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'émergence d'une sorte de pouvoir un petit peu au-dessus de la société, en quelque sorte, qui arbitrerait, permettrait que les échanges se passent correctement, que chacun puisse suivre sa propre voie, satisfaire ses intérêts, commercer tranquillement avec ses voisins ou avec les pays voisins. Toutes ces sociétés, non seulement n'ont pas d'État, mais en fait, l'idée de classe, c'est qu'en réalité, ce fonctionnement guerrier qui est interne, qui est intrinsèque en fait à ces sociétés-là, est un fonctionnement qui vise justement à empêcher toute émergence d'État comme pouvoir un petit peu extérieur et surplombant, en quelque sorte, hein, à la société elle-même. Alors ça, c'est un point qui est intéressant, parce que l'idée de classe, c'est que la plupart des anthropologues, au fond, sont dans une espèce d'illusion qui consiste à croire finalement que l'État est une sorte d'aboutissement naturel et nécessaire, en quelque sorte, de la vie sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aurait une évolution spontanée et nécessaire des sociétés humaines qui les amènerait petit à petit à faire émerger des institutions étatiques, donc dotées d'un pouvoir surplombant, avec des missions régaliennes, police, justice, armée, de manière à assurer la paix en interne et puis la défense vis-à-vis des voisins, etc. Et l'idée, c'est que toutes les sociétés qui ne rentrent pas finalement dans cette histoire-là ne sont pas des sociétés, aux yeux de la plupart des anthropologues. Et d'après Clastres, au fond, ce qui est le modèle qui est derrière ça, c'est le modèle d'un philosophe anglais, Hobbes, hein, qui considère finalement que la vie sociale et l'histoire des sociétés et l'histoire de l'État, finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que les individus d'une société ne se mettent pas d'accord pour faire émerger une autorité souveraine, une autorité un peu surplombante, au fond, on ne peut même pas parler de société humaine.
Parce que c'est la guerre de tous contre tous.
C'est la guerre de tous contre tous.
C'est la destruction du lien social.
Tout à fait.
Et à partir de là, il n'y a que l'État qui peut garantir la pérennité et la paix dans les liens sociaux. Donc voilà, quand est-ce que surgit la société? Quand l'État surgit.
Et c'est l'État qui fait la société.
Hein,
c'est vraiment l'idée de Hobbes. Et d'après Clastres, au fond, la plupart des anthropologues sont dans ce modèle-là. C'est-à-dire que toutes les formes d'organisation collective humaine qui doivent, en quelque sorte, à un moment donné, aboutir à des formes quelconques d'État. Et en fait, ce qu'il cherche à montrer, lui, c'est que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les sociétés humaines ne s'organisent pas la plupart du temps sur la satisfaction des besoins ou sur la sécurité ou sur les échanges en interne ou à l'externe. C'est pas là-dessus qu'elles s'organisent. Elles s'organisent sur la guerre. Pourquoi ? Parce que la guerre est une manière d'affirmer leur autonomie. Leur autonomie et le caractère égalitaire, hein, de leur organisation en interne, en quelque sorte. Donc c'est Alors, ça conduit Clastres à dire quoi ? Ça le conduit à dire que finalement, si on s'intéresse aux sociétés primitives, alors du coup, primitives, du coup, n'a plus le même sens, puisqu'il ne s'agit pas de sociétés pré-étatistes, en quelque sorte. Il s'agit de sociétés anti-étatistes. Donc c'est pas primitif au sens où c'est une étape en quelque sorte sur la constitution de l'État, puisque l'organisation de ces sociétés, elle est faite pour que l'État n'émerge pas. Et pour que ces communautés restent en quelque sorte dans leur diversité, sur leur territoire, sur leur groupe local, avec leurs coutumes, avec leurs règles. Donc ce ne sont pas des sociétés qui sont ouvertes aux autres. Ça, c'est aussi un point qui est très important chez Clastres, c'est que toutes ces sociétés primitives, entre guillemets...
Celles qu'il étudie, lui, parce que...
Celles qu'il étudie...
Grébert a d'autres exemples, c'est ça qui est très intéressant.
Et donc, c'est les sociétés sur lesquelles travaille Clastres, en fait, sont des sociétés qui sont je dirais pas xénophobe, mais il y a quelque chose comme effectivement il y a une méfiance en quelque sorte, une méfiance spontanée à l'égard des sociétés environnantes. Alors ça, c'est le côté qui est pas sympathique dans l'approche de Clastres. Cela dit, ça me paraît intéressant effectivement la manière dont il retourne en quelque sorte les choses, en montrant que il n'y a pas cette espèce d'histoire un peu universelle là, qui conduirait finalement les sociétés naturellement à se doter d'un État arbitre ou institutionnel, et que le rempart contre ça, c'est la guerre, et la guerre comme phénomène social primitif.
Alors, tu parlais de l'évolutionnisme, c'est-à-dire l'idée que les sociétés doivent évoluer d'une certaine manière dans le même sens que nous pour arriver même au terme de notre parcours actuel, qui serait le summum de ce que peut faire l'humanité. Mmh. Bon, on peut rigoler, quand même. J'ai le droit de rire, là, moins 20 secondes. si c'est nous le top, dis donc, on est mal barré. Bon, mais vous savez bien, chers auditeurs, que quand, si jamais vous avez le malheur de vous déclarer libertaire ou anarchiste là où il ne faut pas, on va tout de suite vous dire... on peut vous faire deux, trois objections. Vous allez dire, là, je suis libertaire, on va vous répondre, non, mais donne-moi un exemple de société anarchiste. Alors là, si vous connaissez un petit peu d'anthropologie, vous pouvez dire, oui, il y a telle tribu, tel et tel machin. Et là, l'objection qui ne manque jamais de tomber, c'est, oui, mais eux, c'est des primitifs. Après tout,
c'est toujours.
Et est-ce qu'on peut trouver une société moderne, technologiquement avancée, qui soit anarchiste? Et en fait, de fait, il y a des... Et là, Grébert est intéressant, je trouve, il peut vous donner des petits arguments réutilisables. C'est qu'ensuite, il donne... Effectivement, lui pense qu'il y a plein d'expériences libertaires en cours dans notre société. Et que peut-être, c'est pas gagné, ces expériences libertaires vont la modifier à terme. Mais ça, on n'en sait rien. On peut pas du tout parier sur la chose. Mais ce qu'il dit surtout, c'est que le problème, c'est que finalement, la question que pose le sceptique à l'anarchiste est toujours biaisée. C'est-à-dire qu'en réalité, la question, c'est quand... Donne-moi un exemple de société anarchiste. Ce qu'il y a derrière, c'est donne-moi un exemple d'État-nation anarchiste. Et effectivement, dans ces cadres-là, on ne peut jamais répondre. Et c'est pour ça que, finalement, Grébert, lui, va s'attacher à essayer de penser en dehors de l'État. En termes, et donc, il va aussi complètement essayer de casser, en tout cas, l'évolutionnisme. C'est-à-dire montrer pourquoi il n'était pas naturel et évident que l'Europe finisse par dominer le monde aux alentours du 19e siècle, ou que sa culture en tout cas finisse par dominer le monde, et qu'il n'était même pas du tout naturel et évident que l'Europe se dote d'un État-nation qui organise un marché de cette façon-là, parce qu'il y avait d'autres modèles politiques en Europe aussi à ce moment-là. La Ligue hanséatique des marchands, deux, trois choses comme ça.
Les communes
en Allemagne, qui n'étaient pas du tout des modèles finalement forcément étatiques. Et c'est ça que je trouve vraiment bien dans son livre, c'est que il essaie de montrer en quoi notre réalité sociale et politique actuelle n'est absolument pas une nécessité ou une fatalité. Alors après, sur l'évolutionnisme et sur l'idée qu'on serait meilleur que les autres, là je pense que son idée est relativement simple. C'est que finalement, si on s'attache à ces sociétés dites primitives, on s'aperçoit qu'elles sont en réalité extrêmement développées, extrêmement complexes, beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer au premier abord, et que d'autre part, elles constituent sans doute, si on regarde l'histoire sur le très long terme, 98% des sociétés humaines. Et ce que dit Grébert, c'est qu'il dit, si vous avez envie de tirer un trait sur 98% de l'expérience politique et sociale humaine, allez-y. Mais est-ce que vous êtes sûr de bien penser la réalité à ce moment-là? Ou est-ce que vous n'êtes pas simplement totalement rendu myope par le monde dans lequel vous vivez? Alors, mes montres indiquent plusieurs heures différentes. On peut continuer, José? Voilà, donc, à partir de là, il va terminer en donnant des exemples d'une science qui n'existe pas, c'est-à-dire l'anthropologie anarchiste. Et donc, il veut proposer une théorie de l'État, pense qu'on devrait réfléchir là-dessus. Donc les États, je vous le lis, présentent un double caractère assez particulier. Ils sont à la fois des formes institutionnalisées de pillage ou d'extorsion et des projets utopiques. Le premier de ces deux aspects traduit la façon dont l'État est vécu par toute communauté qui conserve un certain degré d'autonomie. Ah, donc l'État nous pille. Le second, la façon dont les États tendent à être dépeints dans les documents écrits. Alors, je trouve ça assez amusant. bon, son idée quand même, c'est que l'État, repose, c'est un modèle de contrôle qui a une espèce de fondement paranoïaque. le désir de tout contrôler, qui effectivement n'aboutit jamais, et ça c'est utopique, parce que dans la réalité on ne contrôle jamais tout. Toujours des choses qui échappent. Voilà, je ne sais pas combien d'argent représente l'économie parallèle, par exemple, actuellement en France et dans le monde, mais je pense que c'est des sommes assez colossales. Voilà, c'est tout ce qui échappe, ne serait-ce que ça, qui échappe à l'État. Alors, je ne vous dis pas que c'est forcément bien, tous ces trucs-là, mais en tout cas, l'État ne peut pas le contrôler, même s'il aimerait bien. Et donc, ensuite, il pense qu'il faut évidemment une théorie des entités politiques qui ne sont pas des États. Et donc, et ça, il part justement de ce décalage entre le projet utopique de l'État de tout contrôler, et la réalité où l'État ne contrôle pas tout. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est essayer de voir les entités politiques infra-étatiques. Voilà. Il y a l'État, mais qu'est-ce qu'il y a à côté? Et est-ce qu'on peut faire sans? Donc, et puis aussi, il invite aussi à relire l'histoire humaine en se débarrassant du terme État. C'est-à-dire que, par exemple, comprendre les Grecs avec le terme État, c'est sans doute un contresens assez massif. Les Grecs n'avaient pas d'État, et même parler de cité État, c'est sans doute faux. Périclès n'était pas un chef de gouvernement chez les Grecs. C'était sans doute autre chose. Alors aussi, il y a une petite attaque que je ne peux pas m'empêcher de vous parler. C'est pouvoir, ignorance et stupidité. Alors je vous lis un petit peu. Les universitaires apprécient l'identification que fait Michel Foucault entre savoir et pouvoir et son insistance sur le fait que la force brute n'est plus un facteur majeur de contrôle social. Ils aiment cette idée parce qu'elle les flatte. C'est la formule parfaite pour des gens qui se plaisent à penser qu'ils sont radicaux, même si tout ce qu'ils font, c'est écrire des essais qui ne sont lus que par quelques dizaines de personnes dans le milieu institutionnel. Et il dit, bien sûr, si n'importe lequel de ces universitaires se rendait à la bibliothèque de son université pour consulter un livre de Foucault en ayant oublié d'apporter une pièce d'identité valide et décidé d'entrer quand même, il s'apercevrait rapidement que la force brute n'est vraiment pas si loin qu'il le croit. Un homme avec un gros bâton, entraîné à frapper les gens avec juste la force nécessaire, apparaîtrait rapidement pour l'expulser. Et bon, c'est assez, et ce qu'il dit, c'est que justement l'État produit d'ignorance parce que la violence est stupide. Et que c'est le recours préféré des personnes stupides. C'est la forme de stupidité à laquelle il est impossible de répondre. Donc c'est aussi bien sûr un des fondements de l'État. Donc voilà deux, trois choses. On va maintenant s'arrêter là. Donc je vous rappelle, c'est Pour une anthropologie anarchiste de David Graeber et un livre de Pierre Clastre, Archéologie de la violence. Donc la guerre dans les sociétés primitives, aux éditions de l'Aube. Donc voilà, nous espérons que cela vous a intéressé. Et maintenant, une nouvelle émission, si je ne me trompe pas, c'est Entre chiens et loups.